Bonsoir Joëlic.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venu nous voir à Bordeaux avec ce livre qui est quand même, une fois de plus, un livre avec l'art du rebondissement. Alors, ma toute première question, Joël Dicker, c'est quand vous étiez un petit garçon, est-ce que vous aimiez beaucoup les surprises ?
Oui, j'aimais bien ça. Bonsoir. D'abord, je voulais juste... Je suis très ému de voir une salle pleine comme ça. Et la librairie Mola se rappelle peut-être de ma dernière venue en 2012. Je crois qu'il y avait en tout cas 5 ou 6 personnes. Mon éditeur était venu avec une attachée de presse des éditions de Fala. Donc nous, on était 3. Il devait y avoir 6 personnes dans la salle et 3 libraires. Donc on devait être à peu près 6 contre 6. Et c'était très bien, c'était le début. Mais je suis très, très heureux et très surpris. Et surpris, c'est vraiment le mot et c'est le sentiment. Parce que je me demande toujours, à chaque fois, je me dis, mais qui va venir ? Est-ce que des gens vont venir ? Et vous êtes là. Donc voilà, merci beaucoup. Pardon, je ne réponds pas à votre question, mais c'est parce que je veux dire, parce qu'à chaque fois, ça me frappe vraiment. Merci d'être là, de braver le froid. Même à Bordeaux, il fait froid. Où va le monde ? Et je suis très heureux que vous soyez là. Et vous êtes coincé avec moi pendant des heures maintenant, et ça me fait très plaisir. Je ne prends le train que demain matin, s'il y a des trains, donc on a tout le temps.
Vous y pensez ? Quand vous écrivez, vous y pensez ?
Au train ?
Non, à vos lecteurs.
Merde, mon train. Non, je ne pense pas à mes lecteurs du tout, parce que, vous savez, c'est particulier, parce qu'il y a la personne, il y a un peu deux Joël. Il y a le Joël qui se tient devant vous, et qui est un Joël très heureux de ce qui lui arrive en ce moment. Je suis très, très excité, très enthousiaste, très heureux de partager mes livres, d'avoir des lecteurs, d'entendre ce que les lecteurs ont à me dire, très heureux du succès. Mais ça, c'est une partie qui est très annexe à l'autre moi, qui est celui qui écrit, parce que j'écris quand tout ça est retombé. Donc au fond, la vie d'un livre dans le public, elle dure 1, 2, 3 mois, et ensuite c'est fini. Et je me retrouve chez moi tout seul à écrire. Et là, c'est un autre moi, parce qu'il n'y a plus du tout ce rapport au succès, parce que le succès, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez intangible. Et d'ailleurs, même pour moi qui ai la chance de voir mes livres paraître dans différents pays, il m'arrive de temps en temps de voyager dans un autre pays et de voir qu'il n'y a personne, que dans les librairies, il y a 5 ou 6 personnes comme les premières fois ici. Donc c'est le succès, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez avoir du succès en France et à 1 heure de vol, ne pas en avoir du tout. Ça m'arrive souvent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment une obsession du lecteur. Je ne me dis pas qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que je dois leur donner, qu'est-ce que les lecteurs vont penser. C'est quelque chose qui ne me vient pas à l'esprit parce que je suis vraiment dans ces moments-là tout seul. Et quand je suis avec les lecteurs, avec vous, comme ce moment-là, c'est des moments qui s'enchaînent, donc c'est une tournée qui dure à peu près 2 mois. Et puis c'est tout. C'est-à-dire c'est tout, c'est beaucoup, et en même temps c'est très peu, parce que c'est une effervescence dans laquelle je vois beaucoup de monde tous les jours, et donc j'ai pas vraiment le temps de penser à ce que je veux écrire, à ce que j'ai envie de faire. Et donc c'est pas un moment pendant lequel je me dis qu'est-ce que les gens veulent. Ce moment, il vient bien après, quand je suis vraiment seul.
Vous avez le blues de toutes ces rencontres, quand vous rentrez et quand ça s'arrête ?
Non, c'est deux moments très différents. Pour moi, le moment de la rencontre, c'est vraiment le partage. Et ça me plaît de plus en plus parce que, d'abord, je rencontrais des gens qui ne m'avaient pas lu et qui avaient entendu. Alors, d'abord, je rencontrais personne parce qu'il n'y avait personne. C'était le début. C'est vrai. J'ai fait le Salon du Livre de Paris en 2012, donc avant l'apparition de Kéber. Il y avait un stand des éditeurs suisses et je suis resté assis sur ce stand pendant 2 jours, courageusement. Et j'ai signé un seul roman. Mais ça fait partie aussi de la vie des écrivains. Et du coup, ensuite, il y a eu Kéber, et puis il y a eu un espèce de phénomène de mode, un petit peu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que beaucoup de gens avaient entendu parler du livre, et beaucoup de gens étaient curieux de lire ce livre, et beaucoup de gens se disaient, bon, il est là, je vais aller faire signer mon livre. Mais j'étais donc face à des gens qui ne m'avaient pas lu. Et donc, ça faisait des dialogues un peu très limités, du genre, bah, je ne sais pas qui vous êtes, je vous ai vu à la télévision. Et moi, je disais, bah, j'espère que ce livre vous plaira. Les gens me disaient, bah, j'espère aussi. Et ils repartaient. Et il n'y avait pas vraiment un échange, parce qu'eux ne me connaissaient pas. Moi, je ne savais pas très bien quoi leur dire. Très souvent, des gens, ça c'est marrant, des gens venaient, ça ne m'arrive plus maintenant. Mais des gens viennent, puis ils prennent le livre, puis ils regardaient, puis ils lisaient le quatrième de couverture. Mais c'est bien. Alors, je sais pas, je l'ai pas lu, c'est souvent ce que je dis quand même, mais je dis, je sais pas, c'est pas mal, enfin, il faut le lire. Mais du coup, j'étais très emprunté. Et puis ensuite, il y a eu les Baltimore, et puis ça allait déjà un petit peu mieux. Parce que les gens avaient lu Kébert, mais ils me disaient, bon, alors j'ai lu Kébert, est-ce que c'est la même chose? Alors je dis, non, c'est pas la même chose. Ah, mais est-ce que c'est bien? Je sais pas, je l'ai pas lu. Et puis finalement, ce livre-là paraît, et je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait un peu moins de monde, parce que je me suis dit, voilà, le phénomène du moment et l'effet de mode est un peu passé. Je suis rentré un peu dans le rang. Peut-être que les gens voilà, ont moins envie d'aller me voir. Et pas du tout. Voilà que vous êtes là, très nombreux. Et qu'il y a un vrai échange parce que les gens ont lu. Ils ont même lu le premier roman. Et donc, quand je rencontre des gens, maintenant, ils me disent, voilà, ça j'ai aimé, ça j'ai moins aimé. J'ai des gens qui me disent, j'ai pas aimé les deux suivants, mais le premier roman, Les derniers jours de nos pères, c'est formidable, faites-moi un roman de guerre encore, je sais pas. Et donc chacun a un avis, et là il y a un vrai échange, parce que pour moi, jeune auteur à ce moment-là, donc dans le milieu du succès, etc., mais là je deviens un peu ce jeune auteur qui a plein de questions, et je me pose des tas de questions encore sur ce que je fais comme métier. C'était pas prévu comme ça vraiment, je pensais pas vivre de ma plume. Et du coup, je me demande ce que c'est comme métier. Qu'est-ce qu'un écrivain? Qu'est-ce qu'un livre, au fond? Comment on écrit un livre? Combien de chapitres? Combien de pages? Combien de pages pour un chapitre? Il y a des cursus pour être médecin, psychologue, journaliste, peintre, musicien. On peut suivre une université, on peut suivre des cours. Écrivain, ça, c'est un peu du... C'est comme du vent, c'est comme quelque chose de magique, c'est comme quelque chose qui est un peu flou. Et voilà.
Quelle est votre
méthode? Pardon, c'était une longue réponse pour une tête.
Là, du coup, ça suscite beaucoup de questions, tout ce que vous avez dit. La première, en tout cas, qui me viendrait à l'esprit, le roman policier est un genre que vous décrivez comme mineur dans ce livre-là. Vous faites dire à un de vos personnages, le roman policier, c'est quand même un art mineur. Vous faites un lien entre le fait d'avoir mis du temps à démarrer, à vous faire connaître, et l'écriture que vous avez? Le genre, plutôt, de l'écriture que vous avez choisi?
Non. Non, mais il y a deux questions. La première, c'est qu'il y a un des personnages dans ce roman qui est un critique, qui dit qu'effectivement, donc c'est un critique qui, je ne vais pas vous en dire trop pour ceux qui n'ont pas lu, mais qui en est dit effectivement que les polars, ce n'est pas des vrais romans. Mais là, je rebondis un peu sur toutes les questions existentielles que les écrivains et les critiques ont ensemble. Et peut-être parce que, justement, il n'y a pas de cursus qui valide qui est un écrivain et qui ne l'est pas. Les gens disent « Oui, mais ça, c'est pas vraiment un écrivain » ou « Ah, lui, c'est un grand écrivain » ou « Ah, si vous lisez ça, vous n'êtes pas vraiment... C'est pas vraiment génial, c'est pour les gens. » Il y a une espèce de... Comme s'il y avait des cercles entre les lecteurs, entre les écrivains. Ce que je trouve dommage, parce qu'au fond, je crois que le livre, plus que n'importe quel autre moyen de divertissement, théâtre ou peinture même, qui n'est pas un divertissement, mais ou le cinéma ou la série télé, je crois que le livre peut fédérer les gens ensemble. Parce que quand vous avez lu un livre, vous avez vu votre livre. Vous avez eu une expérience qui est la vôtre, parce que vous avez imaginé les lieux et les personnages et l'action comme vous le vouliez, vous. Et vous n'avez pas eu une image qui vous a été imposée par la télévision. Et c'est pour ça que quand vous le partagez avec quelqu'un, que vous ayez aimé ou pas aimé, il y a vraiment toute la réalité de vous-même, parce que vous avez perçu quelque chose que personne n'a pu voir vraiment. Et quand vous dites ce que vous avez aimé d'un livre ou ce que vous n'avez pas aimé d'un livre, quand vous le partagez avec quelqu'un d'autre, alors vous partagez un petit peu de vous-même et vous parlez un peu de vous-même. Et ça, je crois que c'est très important. Et c'est pour ça que je regrette un peu, et c'est peut-être le but du critique dans le livre, je regrette un peu qu'on en soit aujourd'hui, en 2018, à se dire « Oui, mais alors ça, c'est pas vraiment un écrivain, et ça, c'est un grand écrivain, et si vous lisez, ça, c'est pas terrible. » On est en train de créer de la division, et je trouve que c'est dommage, parce qu'on devrait au contraire, nous, auteurs et libraires et journalistes et critiques, et tous les gens de la chaîne du livre, on devrait pousser les gens à se mettre ensemble. Et à échanger, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est important d'aimer, c'est important de ne pas aimer. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de se dire un roman, c'est un roman, un écrivain, c'est un écrivain, et il n'y a pas besoin d'avoir forcément une classification de genre, parce qu'au contraire, là, on est contre-productif.
Vous me disiez tout à l'heure que vous aimez vivre en Suisse, parce que vous aimez vous replier aussi.
Oui.
Aimez... La Suisse est un cadre aussi propice justement à cette longue réflexion. Dans votre livre, il y a à la fois l'intrigue qui est très très riche en rebondissements et puis il y a aussi pléthore de personnages. Vous avez une addiction pour les romans russes ou...
Oui.
Oui, vous avez une addiction pour les romans russes.
En fait, les romans... Donc moi, j'ai commencé... J'écris parce que j'aime lire et que j'ai découvert en lisant des romans que c'était un monde extraordinaire, que c'était un monde dans le monde. Et j'ai d'abord commencé par lire beaucoup, ou surtout de la littérature française. Et puis j'ai découvert, adolescent, dans la littérature russe, la force du livre, c'est-à-dire un livre que vous ouvrez et duquel émanent des sentiments, des sensations, des odeurs et des couleurs et des personnages. Et je pense que j'ai été fasciné parce que j'ai lu des livres qui étaient peut-être un peu trop compliqués pour moi à cet âge-là, ou en tout cas dans lesquels je perdais un peu... parce que je ne savais plus très bien qui était qui, est-ce que lui, ils ont tous le même prénom, et le même nom, et le nom du père, et alors la femme a un A, et le mari n'a pas de A, ou le frère n'a pas de A, mais lui c'est le mari ou c'est la sœur, et lui c'est le père de qui, mais lui je croyais qu'il était mort. Et donc je ne comprenais plus très bien ce qui se passait, et pourtant il y avait une fascination pour ce monde-là, c'est-à-dire ce monde qui émanait de ce livre, cette Russie, ses odeurs, la sensation de l'hiver ou de l'été, l'odeur du thé qui chauffe sur le poêle. Et je pense que vient de là ma vraie fascination pour le roman et ma conviction que le roman reste quelque chose de beaucoup plus fort que la télévision, que le cinéma, parce que, et je le redis, parce que c'est vous qui imaginez, c'est vous, lecteur, qui avez cette force extraordinaire et c'est un tour de magie que vous réalisez. Et c'est pour ça que quand parfois on dit que je promène mon lecteur ou que je manipule, avec des rebondissements et à des fausses pistes. Je ne crois pas que ce soit une manipulation parce que je crois que c'est vraiment un jeu ensemble, vous et moi, qui peut exister, moi, auteur de livres, mais de tous les livres, entre l'auteur et les lecteurs et qui existe que parce que vous voulez bien jouer. Exactement de la même façon que ce moment maintenant existe, vous et moi, on est assis et on se parle pour la seule et unique raison que vous nous écoutez. Et c'est vrai, si vous partez maintenant... On va se dire, bah merde, alors on n'était pas très intéressant. Vous allez interrompre tout ça. Si vous vous mettez à parler tous les uns avec les autres et qu'il y a un brouhaha comme ça qui nous fait comprendre que ce qu'on fait ne vous intéresse plus, on va s'arrêter. Si vous prenez tous vos téléphones portables et que vous commencez à jouer dessus, on va s'arrêter aussi. On va vous dire, il n'y a plus de connexion. Et donc cette connexion, elle dépend de votre participation. Et dans un roman, c'est exactement pareil. C'est vous, lecteur, qui acceptez de jouer à un jeu. Et c'est écrit dessus parce que c'est écrit roman. Et dans ce livre-là, c'est écrit Joël Dicker, c'est mon nom, c'est moi qui l'écris. Et pourtant, le personnage qui parle, il y en a même plus qu'un qui dit je, mais il y a un narrateur je qui n'est pas moi. Donc on pourrait dire, j'ai pas envie de jouer à ce jeu, c'est pas la vérité. Et on sait que c'est pas la vérité puisque c'est le but du roman. Mais pourtant, on a envie d'imaginer tout ça. On a envie de construire ces personnages, de voir ce qui se passe, de vivre ces vies, parce que c'est la force de notre esprit à nous, lecteurs. Et je crois que c'est important, et c'est pour ça que le cinéma et la série télé, on fait des très beaux films et des très belles séries maintenant, et ça sera toujours mineur, parce que ça sera toujours beaucoup plus faible que ce que vous avez vu, que ce que vous avez, vous, pu imaginer.
Ça vous embête, alors, du coup, que l'affaire Eric Hébert soit adaptée en série télé ?
Non, ça ne m'embête pas parce que j'aurais pu plus dire non. Il n'y a pas une obligation qui me force à dire oui à un projet.
Mais ça vous gêne ?
Non, ça ne me gêne pas parce que... Et c'est pour ça qu'on a attendu longtemps avant de trouver le projet qui était le bon. Et on a eu plus de 90 propositions parce qu'on voulait un projet qui soit un beau projet. Et je crois que ce qui est réussi... je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu le tournage. Mais je crois que ce qui est réussi dans ce que j'ai vu, c'est que cette adaptation, elle n'entravera pas ce que les lecteurs ont imaginé, parce que là où Jean-Jacques Hano a été très fort, c'est qu'il a réussi à retransmettre les émotions et les sentiments qui se dégagent de ces personnages, c'est-à-dire ce qu'on peut lire entre les lignes. Et c'est pas très important de savoir, je crois, hein, ça c'est mon avis, je crois que c'est pas très important de savoir si Harry Kébert est plutôt comme ci, ou s'il est brun, ou s'il est blond, ou s'il a un pull bleu ou un pull jaune, ou si la maison, elle est en planche dans ce sens-là ou dans l'autre, ou si elle est peinte en jaune ou en bleu, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est le sentiment. C'est par exemple cette maison dont j'aurais été incapable de dire de quelle couleur elle était. Quand j'ai vu la maison qu'ils ont construite pour la série télé, je me suis dit c'est exactement ça, parce qu'il y a une terrasse extraordinaire qui donne sur l'océan, et quand vous vous asseyez sur cette terrasse-là, qui pour moi était l'élément clé, vous vous asseyez dessus, vous dites, oh, je veux être là pour toujours, je ne veux pas partir, je veux écrire un livre. Il y a un sentiment très apaisé, très fort. Et c'est en ça que je pense que ça ne peut pas trahir, c'est que le sentiment est là. Et je crois que les gens ne seront pas déçus, parce que je crois que les lecteurs qui ont aimé le livre ne se sentiront pas trahis par rapport justement à ce qu'eux ont pu imaginer.
Je reviens à ce que j'avais commencé tout à l'heure. Genève, c'est le lieu où vous vous dites, voilà, c'est là que je vais écrire un livre.
En fait, je ne me suis pas posé la question. Parce que ça... En tout cas, c'est le lieu où je me sens bien parce que je suis très à l'écart.
Et vous avez besoin de concentration
J'ai besoin de concentration. J'ai besoin d'être à l'écart aussi parce que je crois justement que d'être à l'écart, ça marque une séparation très nette entre la promotion, entre le succès. Parce que qu'est-ce que c'est que le succès? C'est quelque chose de très limité, qui ne durera peut-être pas, qui de toute façon évolue beaucoup parce que le succès, même s'il perdure, après c'est quand même quelque chose qui se tasse. Il y a moins les effets de la nouveauté, il y a moins les euphories, il y a plus de problèmes que d'avantages au bout d'un moment. Donc tout ça, tout le côté du succès me permet, en étant en Suisse, de le laisser très loin et de me concentrer sur écrire, quelque chose que j'ai toujours fait. Ça fait maintenant, même si je ne pensais pas forcément vivre de ça, ça fait 12 ans que j'écris quasiment à plein temps, c'est-à-dire que je dégage du temps tous les jours pour écrire. Et j'avais un travail avant d'assistant parlementaire, et les Suisses, qui sont toujours des gens assez drôles, considèrent que la politique n'est pas un métier. Donc les parlementaires sont des miliciens, c'est-à-dire que c'est un hobby, et ils ont un métier. Alors toutes les réunions des parlementaires sont, par exemple, très tôt le matin, avant les heures de bureau, donc de 6h à 8h, les Suisses se lèvent tôt, et ensuite le soir tard, de 8h à minuit. Et ce qui me laissait, par exemple, tout le temps pour écrire, c'est comme ça que j'ai écrit Kébert à ce moment-là, parce que j'avais, tout en travaillant, j'avais des grandes plages libres. Et je crois qu'en retournant comme ça à Genève, dans ce cadre très calme, je retourne vraiment à ce qui est le plus essentiel pour moi, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce qu'on parlait des lecteurs avant, mais je crois que le seul vrai guide, surtout quand on est élu, et que de plus en plus maintenant, je n'ai plus une unanimité dans un genre. J'entends tous les jours des gens qui me disent « Moi, j'ai préféré celui-là, moi, j'ai préféré celui-là, moi, j'ai aimé ce personnage, moi, j'ai pas aimé ce personnage. » Donc, c'est un méli-mélo de toutes les réactions, et c'est très bien. Mais comment est-ce qu'au milieu de toutes ces réactions, et vous faites ça à fois tous les pays du monde dans lesquels je vais, les gens me le disent en espagnol, en anglais, en allemand. Donc, comment je fais le tri? Alors, je le fais pas. J'écoute ce que les gens me disent. Il y a souvent des commentaires qui sont très pertinents et qui peuvent être utiles aux jeunes écrivains, justement. Mais souvent, le plus important, c'est ce que j'ai envie de faire moi. Parce que l'envie, je crois que c'est le meilleur guide. Si vous écrivez parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un absolument, c'est le meilleur moyen de se tromper parce que vous l'avez fait pour l'autre. Alors que si vous écrivez et que ce qui vous pousse à écrire un livre, c'est votre plaisir, c'est mon plaisir à moi, alors une fois que le livre est fini, peu importe ce que les gens en pensent, peu importe si le succès est là ou pas, le plaisir que j'ai eu pendant les 2 ans ou 2 ans et demi que le processus de l'écriture du livre a duré, ce plaisir, il est à moi. Et je crois que ça, c'est un sentiment qui est très important.
Est-ce que vous écrivez comme les enquêteurs de votre livre avec des fiches partout au mur pour tel personnage, tel autre personnage, des notes comment vous écrivez? Est-ce que vous avez cet univers comme ça d'enquête?
Non, alors j'écris sans plan, d'abord. C'est important pour moi. Et ce n'est pas une prouesse, je le dis, parce que j'écris sans plan parce que je suis mon lecteur et que je suis content de ne pas savoir ce qui se passe. Je ne relis jamais de romans, par exemple. Même les romans que j'ai aimés, je ne les relis jamais. Et peut-être une des raisons, c'est parce que je connais déjà la fin. Je sais ce qui se passe. Et je n'aime pas savoir ce qui se passe. Donc, je me verrais mal écrire un livre pendant 2 ans et demi dont je connais déjà le milieu et la fin. Ce n'aurait pas un intérêt pour moi. En tout cas, pas un intérêt suffisant pour que je me lève tous les matins tôt et que j'écris pendant 12 heures une histoire comme ça.
Vous voulez dire que vous écrivez l'intrigue en même temps que vous écrivez votre livre?
Exactement. Et j'ai pas de plan parce que je crois que le plan, si j'avais moi besoin d'un plan et d'une fiche en me disant alors lui et elle, ils sont mariés, là c'est eux, là c'est leur famille, et lui je l'ai décrit comme ça et l'histoire va se passer comme ça. Si moi, écrivain de mon propre livre, j'avais besoin d'un plan, je sais pas comment les lecteurs pourraient lire le livre sans avoir eux-mêmes besoin de tous ces plans. Et non pas que je pense aux lecteurs autres que moi-même, mais aux lecteurs moi. Ça veut dire que déjà moi, en tant que lecteur de mon propre livre, je serais perdu. Et je trouve que c'est pas un bon signe pour votre travail si votre propre roman vous échappe. Vous dites, mais attends, qu'est-ce que j'avais déjà raconté là? Lui, c'est qui? Donc pour moi, c'est des signaux qui sont très importants parce que si je me perds dans mon livre, je perds l'envie de continuer. Donc, et c'est assez rédhibitoire.
Donc tous les personnages que vous avez dans votre livre, c'est comme si vous les rencontriez là, clac, au moment où ils sont devant vous, ils vous racontent leur histoire.
Oui, alors ils viennent, vous savez, c'est vraiment des gens qui entrent tout d'un coup, ils toquent à la porte, ils ouvrent la porte, ils se présentent, c'est le personnage, alors vous leur dites, bon, vous n'aviez pas imaginé forcément ce personnage-là comme ça ici, mais pourquoi pas? Et l'idée de ce personnage qui ouvre une porte et qui entre, c'est l'idée. Je veux dire, ce concept d'avoir vraiment quelqu'un qui arrive devant vous, c'est une idée. Comment est-ce qu'une idée vous vient? C'est la force de l'esprit, c'est l'inspiration. Et l'inspiration, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu, qui forme un magma dans votre tête. Et ce que vous avez aimé, mais ce que vous n'avez pas aimé. Quand on lit un livre et qu'on l'aime, ça va forcément avoir, qu'on le veuille ou non, une inspiration à un moment donné. Et quand on lit un livre et qu'on ne l'aime pas, ça aura aussi une inspiration, puisqu'on va se dire, je ne vais surtout pas faire ça. Et je crois que le fait qu'une idée jaillisse tout d'un coup comme ça, c'est à peu près le concept de la porte qui s'ouvre et de ce personnage qui arrive devant vous. Et vous dites, mais ça alors, je n'avais pas imaginé ça. Et il faut essayer. Il faut essayer parce que si une idée vient, il faut voir où elle vous mène. Et je crois que c'est tout l'intérêt justement de ne pas avoir de plan. Si vous aviez un plan qui vous emmène exactement où vous voulez aller, on vous dit voilà, point 1, point 2, point 3, fin. Alors quand la porte s'ouvre, ah non, désolé, hop, vous fermez la porte parce que vous êtes sur le point 1, point 2. C'est comme si je suis venu de mon hôtel jusqu'ici en suivant comme un imbécile Google Maps qui m'a dit voilà. Alors j'ai regardé le trait bleu sur mon téléphone dont je voyais qu'il était tout droit pendant 400 mètres, mais quand même je le suivais pour être sûr qu'à un moment donné, il ne va pas changer de direction tout d'un coup. Et j'aurais pu me dire, bon, je vais me retrouver, j'aurais pu demander à l'hôtel comment est-ce que je me rends là, il m'aurait dit prenez à droite, allez tout droit, et puis vous verrez bien, puis j'aurais pu même marcher au hasard et puis demander à des gens dans la rue. Et je crois qu'en décidant de ne pas le faire, je me suis privé de découvrir un peu cette ville. Et c'est dommage. Alors bon, je l'ai fait parce que je voulais être là à l'heure exacte, etc. Mais j'aurais pu aussi essayer une rue, et puis une autre, et puis me perdre. Et puis, c'est pas grave de se perdre. Puis me dire, voilà, ben, au moins, là, j'ai vu cette fontaine, là, j'ai vu cette ruelle, j'ai vu ce magasin, cette librairie, que j'aurais pas vu si j'avais suivi ma carte comme ça. Et je crois que dans la conception d'un livre, ça, c'est pour moi, hein, et chacun a son plan et a sa façon de faire, mais pour moi, justement, de pas savoir où je vais, c'est le meilleur moyen de visiter des idées, des concepts, des lieux auxquels j'aurais pas pensé si j'avais un plan carré qui me briderait.
Donc plus encore que la surprise, c'est la prise de risque qui serait un peu votre mot d'ordre. L'écriture sans filet.
Ouais, c'est pas très risqué parce que je me relis après. Non, c'est pas très risqué justement parce que qu'est-ce que vous risquez au pire? Vous êtes allé dans un... Vous avez un personnage qui vous plaît pas, vous avez un personnage qui vous parle pas, vous avez un morceau de l'histoire qui fonctionne pas, vous l'enlevez. C'est justement, le risque, il est de zéro. Parce que vous pouvez reprendre. C'est pas comme si vous construisez une maison et qu'en ayant fini votre maison, vous dites « En fait, j'aurais dû agrandir le sous-sol. » Vous êtes obligé de tout raser. Vous pouvez vraiment... Vous écrivez un livre, vous allez en avant, en arrière. Et je trouve que c'est ça, en tout cas pour moi, c'est ce qui me plaît. C'est la force du roman quand je l'écris. C'est qu'il y a une infinité de possibilités et de chemins qui peuvent vous mener au même endroit.
Quand vous dites que, bien sûr, votre livre évoque tout ce qui vous entoure, ce que vous voyez, ce que vous lisez, à l'intérieur de cette pluralité comme ça, de sources, il y a aussi la justice, les médias, les réseaux sociaux.
Oui, mais ça fait partie de l'inspiration. C'est-à-dire que là, il y a, dans ce dont vous parlez, c'est des thèmes plutôt, qui sont des thèmes qui me tiennent à cœur. Qui est légèrement différente de l'inspiration, parce que je fais une différence entre l'inspiration créative, où vous racontez une histoire, c'est-à-dire vous avez envie de raconter une histoire, vous avez envie de captiver quelqu'un. Mais c'est pas artificiel, hein. C'est important, parce que on parle du suspense souvent, on me dit « Ah, vous avez la recette pour le suspense ». S'il y avait une recette pour le suspense, je serais très heureux parce que je pourrais me dire, bon, ben, tous mes livres ont du succès parce qu'il suffit de faire A plus B plus C. Et je crois que tous les éditeurs et tous les libraires du monde seraient très heureux parce qu'il y aurait une recette qui permettrait à tous les livres de se vendre très bien. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de truc, c'est qu'il n'y a pas de recette. Et c'est la beauté du livre, c'est qu'il peut se passer avec des romans qu'on n'attendait pas un succès immense. On peut avoir des succès calibrés pour marcher qui ne marchent pas parce que le public n'est pas là ou ne le sent pas. Il n'y a pas de recette. Et je crois, par exemple, de ce qui définit pour moi le suspense, c'est qu'à un moment donné, dans la journée, je m'arrête. Et que comme je ne sais pas où je vais et que je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer demain, je laisse une suspension dans l'histoire, mais pour moi. Pour savoir où j'en suis, moi. Et j'arrive à un moment donné où je me dis, bon, alors là, ils arrivent dans la maison, ils ouvrent la porte, j'ai aucune idée de ce qui va se passer puisque j'ai pas de plan, ils ouvrent la porte et là, oh, ben, la suite demain. Alors on se dit, oh, le con, il m'a bien eu. Mais ça, on croit que... Mais en fait, c'est moi, j'ai aucune idée. Et c'est important, mais c'est... Justement, c'est pas artificiel. C'est ce qu'on a envie de partager quand on a une bonne histoire et quand vous avez envie de partager quelque chose avec des copains, vous arrivez à un dîner, vous êtes en retard parce que vous arrivez à un truc incroyable. Et quelle est la première chose que vous faites quand vous arrivez au resto? Tout le monde est là sauf vous. Vous n'allez pas vous asseoir et dire pardon, je suis en retard. Et puis à un moment donné, dire excusez-moi les gars, je voulais vous dire. En fait, avant, il y a 2 heures, parce que vous n'allez pas faire ça. Vous allez rentrer et dire oh, il m'est arrivé un truc incroyable. Vous allez attraper les gens parce que vous voulez absolument leur dire ce qui s'est passé. Et par votre façon de les attraper, vous allez leur parler et vous allez attendre qu'ils soient là. Vous allez dire non, non, écoute, je dois absolument vous interrompre. Il s'est passé, j'étais sur la rue et il s'est passé un truc incroyable. Et on dit mais quoi? Et là, c'est le début de l'histoire et c'est le début de ce partage, mais qui est pas, je me dis pas il faut que je les attrape, il faut que je fasse du suspense, il faut que je me dis j'ai envie de raconter quelque chose. Et ça, c'est le bonheur qu'on a tous quand on raconte une histoire à des enfants. Et c'est le même procédé, parce que je pense que le procédé qu'on a ou qui se passe en nous quand on lit un livre et qu'on joue le jeu, justement, on accepte de dire c'est un roman, c'est une fiction et qu'on imagine tous ces personnages-là, c'est exactement ce que font les enfants quand ils jouent dehors et qu'ils disent ben, ça c'est l'eau, ça c'est le bateau, c'est les crocodiles. Ils savent que c'est pas de l'eau, ils savent que c'est pas le bateau, mais ils font comme si. Et cette force de l'esprit de pouvoir faire comme si, elle est très importante. Et je crois que c'est ce qui plaît aux gens quand ils lisent un livre et que ça les captive. Et c'est ce qui me plaît le plus, c'est les gens qui me disent ah, « Moi, j'aimais pas lire » ou « J'aimais plus lire » et « J'ai lu votre bouquin, maintenant j'aime lire et je lis d'autres livres. » Et je trouve que c'est beau parce que, en fait, c'est simplement des gens qui ont réveillé en eux cette façon d'imaginer que tout le monde a, parce que je crois que tout le monde aime lire, mais que tout le monde ne le sait pas encore. On a tout ça en nous et c'est très important. Et quand on raconte une histoire à des enfants, c'est exactement ça. On leur parle et on leur raconte et il s'est passé ça. Quand les enfants vous regardent avec des yeux, ils disent, oh, vraiment, et qui se mordit les doigts ou comme ça, et qui sont, on est content. Il y a une forme de jubilation qui n'est pas une manipulation, qui est une jubilation de l'échange. Et vous êtes très content si vous dites à vos enfants la suite demain, parce que vous inventez, que vous savez pas, et qu'ils vous disent oh, encore 5 minutes. Eh ben, vous êtes content. Alors que si vous dites la suite demain, que vous dites, ah, enfin, t'es nul cette histoire, on peut aller se coucher. Vous dites ah ben non, merde, alors pourquoi? Et donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se passe à deux. Je n'ai pas répondu à votre question complètement, je crois. Mais on va y retourner.
Non, non, mais ce n'est pas grave. On était partis sur les réseaux sociaux et la justice.
Oui, on y va. Donc, les
mais
réseaux
on n'est pas pressé.
Et la justice. Non, mais ça, c'est plutôt, je pense, des thèmes qui me tiennent à cœur, qui sont différents de l'inspiration, qui sont des choses dont j'ai envie de parler parce qu'elles m'interpellent ou parce qu'elles m'intéressent. Pour la justice, je pense que c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement parce que j'ai fait du droit et que l'idée même... J'ai fait du droit, en fait, parce que j'aime le droit romain et que j'aime les langues anciennes. J'ai fait du grec ancien et du latin. Et je vous raconte ça parce qu'en fait, j'étais très attiré par tout ce qui est la base de notre civilisation aujourd'hui même et que notre droit, ici, en Suisse et en France, est un droit romain qui a des us et a des coutumes qui sont passionnants. Et en étudiant le droit, j'ai pris conscience aussi de la complexité du sens de la vérité et de la justice. Qu'est-ce que la justice? C'est compliqué à dire. Qu'est-ce que la vérité? C'est compliqué parce que vous avez des parties dont chacune est convaincue que la vérité est sienne. Et ces deux vérités s'affrontent et un juge va devoir établir la vérité, mais qui sera sa vérité. Et je trouve qu'il y a dans cette complexité quelque chose du roman. puisque dans le roman, vous avez votre vérité. Vous allez lire des livres que vous allez aimer parce qu'ils auront une résonance, parce que vous allez imaginer des personnages par rapport à votre vérité à vous. Si je prends quelque chose de très schématique, si je vous dis, un bel homme et que je reste là, bah, votre vérité à vous, c'est peut-être qu'un bel homme, il est blond, et peut-être que votre vérité à vous, c'est qu'un bel homme, il est brun. Et peut-être que votre vérité à vous, c'est qu'un bel homme, il est grand, ou peut-être que la vôtre, c'est qu'il est très intelligent. Si je vous dis maintenant, c'était un très bel homme, il était grand et blond, peut-être que vous allez dire, bah non, ça c'est la vérité de Joël, mais pour moi, c'est pas ça du tout. Et je trouve que dans le roman, justement, il faut laisser de la place à la vérité pour chacun, pour se construire sa propre histoire, pour accepter certaines situations ou pas, se rebeller aussi, ne pas être d'accord avec ce que je propose, ne pas être d'accord avec une résolution. Y a un élément comme ça personnel qui est votre vision et votre approche. Et parce qu'au fond, de ça émane la vérité sur soi-même. Et c'est en ça que je disais avant que le roman a cette importance, que la série télé, je parle de série télé beaucoup parce qu'il y en a vraiment, je crois que ça a pris beaucoup plus de place que le cinéma aujourd'hui, parce que je remarque des gens, et moi ça m'arrive pas tellement, mais je remarque des gens qui regardent des séries en entier en un week-end. Et donc il y a vraiment cette fascination, les séries c'est génial, et je me dis, mais oui, la série c'est génial, il y a des très bonnes séries, mais le roman l'a fait avant. Le feuilleton était bien avant, le Comte de Monte Cristo, feuilleton extraordinaire, c'était là bien avant les séries télé. Et donc ce que les gens font avec une série télé, ils peuvent le faire, ou beaucoup le font déjà avec des livres, et vont vivre une expérience beaucoup plus forte. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir la mise en abîme du roman et de leur vérité à eux, de leur perception à eux, de ce qui les touche. Et donc moi, je vous dis ça pour vous dire que je parle de la justice, qui est un sujet qui me touche, et que j'essaye là d'en parler tel qu'il me touche. Mais c'est difficile, parce que comment est-ce que vous insérez votre vérité en laissant la place pour la vérité des autres ? Et je parle des réseaux sociaux qui sont quelque chose qui m'interpelle aussi, parce que je me demande ce qu'on en fait. Et je me demande ce qu'on fait de notre vie. À attendre désespérément que des gens mettent des likes sur une photo qu'on a mise. À voir des gens tout le temps qui prennent des photos de tout et au fond qui prennent des photos de rien. Ça m'interpelle parce que je me dis où on va. Avoir des enfants très petits qui ne parlent pas, et qui savent déjà jouer sur des écrans. Alors, il paraît que les enfants seront moins intelligents et auront plus de pouces préhensiles, parce qu'ils auront fait comme ça toute leur vie. Je ne sais pas ce qui est vrai ou pas, mais je trouve étrange, parce qu'on oublie ce qui est important. Et je crois, par exemple, pour les enfants, quand je vois des enfants dans l'instant, je n'ai pas d'enfants, donc je peux juger. Quand je vois des enfants dans les restaurants et qui en ont marre, et que les parents leur mettent un iPad devant, peut-être que vous le faites, je ne sais pas, je me dis, mais pourquoi on ne leur met pas un crayon et une feuille ? Et dans les voitures, j'ai un copain qui a mis dans sa voiture, qui a mis des télévisions. Et je lui dis, mais t'es fou. Tes enfants, il faut qu'ils s'ennuient. Parce que moi, je me souviens, quand on faisait de la voiture avec mes parents, qu'on allait en Italie pendant des heures, qu'est-ce qu'on s'emmerdait, c'était affreux. Mais au fond, c'est dans l'ennui où il y a toute la créativité qui se fait. C'est important que les enfants aient cet ennui. Et voilà, donc j'ai envie de partager des choses qui ne sont pas la vérité, qui sont mes vérités. Ça veut dire que ça ne concerne que moi, et que je le propose comme ça, que je le mets au débat, et que le lecteur pourra ensuite mener son débat avec lui-même, être d'accord ou pas, m'écrire même parfois pour me dire vous avez raison ou vous avez tort, ou venir me voir aussi. Mais c'est compliqué de trouver le juste milieu entre asséner et partager.
Vous auriez du mal aujourd'hui à exercer le droit maintenant que vous avez écrit ces ouvrages ?
Oui, parce que je me souviens plus de rien.
Non, sur le fond, sur cette question du doute, de la vérité, finalement de la bienveillance, parce que à travers tout ce que vous dites et à travers vos romans, il y a quand même ce côté de pouvoir se remettre en question, même 20 ans plus tard.
Oui, mais ça, je crois que c'est pas lié au droit, je crois que c'est lié à soi-même. Et je crois que il y a dans toutes les vies qu'on mène, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir, dans tous les jugements qu'on peut aussi recevoir des gens qui approuvent, qui désapprouvent, des réseaux sociaux qui approuvent, qui désapprouvent, et dans lesquels nous-mêmes, on approuve ou on désapprouve. Au fond, la seule personne qui peut se gérer elle-même, c'est soi-même. Et on peut simplement s'accepter soi-même, on peut simplement se pardonner pour ce qu'on est, parce qu'on est comme on est, et on n'y peut rien. On n'a pas choisi d'être comme on est. On n'a pas choisi d'avoir la tête qu'on a, d'avoir les qualités qu'on a et surtout d'avoir les défauts qu'on a. On peut essayer de travailler dessus, on peut essayer de s'améliorer, on peut essayer de prendre conscience, mais au final, le vrai seul juge, ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas la justice, ce n'est pas les autres, c'est soi-même. Et je crois que la capacité à s'accepter est un élément essentiel pour avancer dans la vie ou pour redémarrer dans la vie. Et c'est un peu le sujet de ce livre qui, au début, s'appelait « La réparation », tout court. Et puis après, le titre a évolué parce que l'histoire a changé. Et puis que la réparation n'était peut-être pas très claire. Et c'est pour ça que, quand on me dit que c'est un policier, je ne dis pas vraiment. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le sujet principal du livre. Il y a une enquête, il y a des meurtres, il y a une enquête. Mais je crois que l'enquête, elle est là comme un des éléments du roman, mais que la vraie colonne vertébrale du livre, c'est la réparation. Et c'est la réparation de qui ? C'est la réparation de cette trentaine de personnages qui se promènent dans le roman et qui convergent ensemble grâce à l'enquête, hein, qui est là comme fil rouge auquel ils s'accrochent, et donc qui sont grâce à cette enquête ensemble, donc c'est-à-dire qu'il y a une unité de lieu pour ces personnages. Mais la vraie question que je me pose, c'est comment est-ce que ces personnages qui vivent tous ou qui sont tous à un moment donné difficiles de leur vie, comment est-ce qu'ils peuvent faire cette réparation, pas la réparation de l'autre, mais la réparation sur eux-mêmes pour redémarrer dans la vie. Parce qu'on n'a qu'une vie, on ne peut pas recommencer, on peut pas faire table rase, on ne peut pas s'en offrir une autre. On peut juste, sur la base de qui on est, de ce qu'on a, redémarrer et continuer avec ce bagage. Et donc c'est pour ça que quand on parle de policier, et je voulais juste encore dire ça parce que je divague un peu, mais on me dit c'est un policier. Je suis embêté parce qu'il y a une enquête, mais l'enquête n'est pas le corps du livre. Et j'ai un lecteur qui me disait l'autre jour, qui me parlait d'un des personnages, je ne vous dévoile rien, donc il y a un meurtre, un quadruple meurtre qui a lieu en 94, et il y a un des personnages qui est né en 95. Donc ce n'est pas un spoiler, le personnage né en 95 n'a pas pu commettre le crime en 94. Et la personne vient vers moi et me dit, mais pourquoi vous avez mis ce personnage dans le roman ? Alors je dis, parce que c'est un des personnages, et qu'il y a une histoire qui, moi, me tient à cœur. Et il me dit, oui, mais elle n'est pas indispensable à la résolution de l'enquête de 94. J'ai dit non. Je dis, alors pourquoi vous l'avez mise si elle n'est pas indispensable? Je dis parce que ce n'est pas un policier. Ce n'est pas un roman policier. Tout n'est pas lié à la résolution de l'intrigue. Il y a autre chose. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que quand on me dit c'est un polar, alors si je dis non, on me dit pourquoi? Vous avez honte, prendre du polar. C'est pas ça. Si je dis c'est un polar et que je dis oui, alors les lecteurs viennent me dire oui, mais alors attends, si c'est un polar, pourquoi est-ce qu'il y a ce personnage qui n'est pas lié directement à la résolution de l'enquête? Donc, c'est pas vraiment un polar. Mais c'est pour dire que, je vous dis ça, pour vous dire que l'idée de départ du livre, c'était la question de la réparation.
Et vous, Joël Dicker, vous aimeriez réparer quoi ?
Tout.
Ni plus ni moins, tout.
Non, tout, tout ce qui sont les choses qui sont dures, les choses qu'on accepte, les gens qu'on a perdus, hein, ça aussi, des choses. Par exemple, pour prendre un exemple peut-être plus concret, et qui peut parler à un plus grand nombre. Voilà, quand on a perdu quelqu'un, comment on fait le deuil de cette personne? Comment est-ce qu'on va de l'avant?
En écrivant?
Oui, en partie, mais l'écriture, c'est limité, parce que, en tout cas, alors si je parle pour moi en l'écrivant, mais ça dure que le temps de l'écriture. Et ensuite, quoi? Donc il faut trouver autre chose. Et c'est pour ça que je ne crois pas que la réparation puisse venir d'un artifice, d'une forme d'art, d'un médicament. Je crois qu'elle peut venir que de soi-même.
Merci.